L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Ce matin, le thème de l'enseignement, c'est la vie chrétienne pour les gens qui se pensent nuls. Vous avez peut-être déjà vu des livres, je ne sais pas, toutes sortes de thèmes, l'Internet pour les nuls, le jogging pour les nuls, je ne sais pas, il y a plein de choses pour les nuls dans les librairies que vous voyez, dans les magasins, juste dans la société en général. Mais là, cette semaine, j'ai vraiment ressenti dans mon esprit que le Seigneur voulait que j'encourage les troupes, dans le sens qu'il y a plusieurs chrétiens qui se pensent nuls, mais qui ne le sont pas. Ils sont pas nuls, mais ils se disent, mais coudonc, je suis le seul sur la planète qui vit tel besoin, tel problème. Est-ce que je suis le seul sur la planète qui expérimente ces choses-là? On dirait, je suis un nul, je comprends rien, comment ça, j'avance pas? Je suis un peu frustré. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes là ce matin, puis vous dites, ben, c'est moi ça. Bien, je veux vous encourager. Ce matin, je peux vous dire que Dieu vous dit, vous n'êtes pas un nul. Amen? Et on va voir c'est qui les nuls, selon la parole de Dieu. On va voir c'est qui. Dieu va vous montrer c'est qui les nuls. Mais c'est pas vous. Amen. Et si vous avez un désir de grandir dans les voies de Dieu, on va avoir du bon temps ce matin. On va sortir de cette place encouragée dans les voies de Dieu. Donc, on va juste prier avant d'aller à la parole de Dieu. Amen. Donc, Père éternel, on vient devant toi encore une fois ce matin et on veut te remercier, Seigneur Dieu, pour ta parole. On te remercie pour ton onction qui est dans cette place. On te remercie, Seigneur Dieu, pour la liberté que chaque personne reçoit aujourd'hui. Merci parce que tu es un bon Dieu qui désire encourager ses enfants. On a prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Moi, ça m'excite. Je sais qu'il y a plusieurs personnes, parfois, qui ont des doutes, qui ont des combats spirituels et qui se sentent d'une certaine façon diminués et qui pensent que les autres sont toujours meilleurs qu'eux ou qui ont plus d'avantages ou sont plus spirituels, sont plus ci, sont plus ça. Et il y a des racines dans nos cœurs qui doivent être déracinées pour qu'on puisse réaliser qui nous sommes en Christ. Si nous avons fait de Jésus-Christ le Seigneur de notre vie. Si vous dites, ben moi, j'ai jamais fait ça encore. Moi, j'appartiens à la religion. Mais gloire à Dieu, Dieu aujourd'hui peut vous délivrer de la religion. Amen. Délivrer de la religion, mais c'est quoi? Dieu, là, il ne nous offre pas une religion, il nous offre une personne. Son nom est Jésus. Ce qu'il veut, c'est qu'on le rencontre, et quand on rencontre Jésus, notre vie est transformée. Là, qu'est-ce qui se passe après? Puisqu'on aime Dieu, notre vie va changer, nos intérêts vont changer, on va vouloir le servir avec tout notre cœur, on va vouloir être au service de Dieu en même temps, mais on ne le fera jamais par sentiment d'obligation ou par un joug qui vient nous écraser, parce qu'on se dit, ben là, je dois performer pour Dieu. On va le faire parce qu'on aime Dieu et on a vécu quelque chose en dedans. Quand on a vécu ce quelque chose-là, c'est tellement merveilleux qu'on veut le partager avec les autres tout simplement. Hein? Ça fait du sens? Mais c'est ça que Dieu veut. Dieu ne nous offre pas quelque chose de desséché, de plate. Si c'est ça que vous avez, bien c'est temps que vous faites cette rencontre avec Jésus. Amen? Donc, je vais vous inviter ce matin à tourner dans Éphésiens. Éphésiens, on va commencer au premier verset. Éphésiens chapitre 2, premier verset. Éphésiens 2, premier verset. Amen. Ce qu'on va voir présentement, juste au tout début, c'est notre réalité, la vérité sur notre position en Christ, la réalité de qui nous sommes devenus en Jésus-Christ. Si vous dites, ben moi, je ne l'ai pas encore vécu cette expérience-là, ben j'ai vraiment des bonnes nouvelles pour vous. C'est tellement simple. Vous savez comment on fait pour devenir un enfant de Dieu? C'est en disant, oui, Seigneur, oui, je te reçois dans ma vie. Je te demande de me pardonner, de me laver. Et à ce moment-là, Dieu dit, merci, j'ai attendu si longtemps pour toi. Viens, je veux t'adopter dans ma famille. C'est juste un oui. Pour nous, c'est très simple de devenir un enfant de Dieu. Mais pour Jésus, ça lui a coûté sa vie. C'était quelque chose d'extrêmement difficile. Il est allé mourir sur la croix pour payer notre dette de péché. Pour lui, c'était quelque chose de très difficile, de souffrant, de terrible. Mais pour nous, c'est gratuit. Ce ciel nous est offert gratuitement. Donc, on est aussi bien de dire, oui, je reçois ce don-là. Et là, on passe en plus, non seulement est-ce qu'on va être béni sur cette terre, mais on va passer l'éternité avec Dieu au ciel. Moi, je ne veux pas passer à côté de ça. Amen. On va regarder ensemble dans Éphésiens chapitre 2. On va aller au premier verset. Autrefois, dites autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Comprenez que le péché nous sépare de Dieu. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Verset 3, nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi, nous étions par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Jusqu'à présent, vous venez de voir avant Jésus-Christ. Maintenant, on va voir après Jésus-Christ. Okay? Une des choses qu'on voit avant, c'est de dire on était mort spirituellement. Ça, c'est une condition triste, mais réelle. Verset 4, ça dit, « Mais Dieu est riche en bonté. » Ça veut dire que Dieu est bon. Il y a suffisamment de bonté pour tout le monde. « Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Jésus-Christ. » C'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce, ça veut dire une faveur non méritée. On ne mérite pas d'aller au ciel. Il n'y a personne qui est assez bon pour mériter le ciel, mais c'est une grâce que Dieu nous fait de nous offrir la vie éternelle. Il y a des personnes qui disent, « Oui, mais moi, là, je suis assez bon. J'ai quand même fait des bonnes choses dans ma vie. Donc, je pense, à quelque part, je peux mériter mon ciel parce que voici, tu vois, j'ai donné de l'argent aux pauvres. J'ai quand même respecté les 10 commandements. J'allais fidèlement à l'église. J'ai même servi à la messe. » Des fois, les gens ont toutes sortes de raisons, mais savez-vous, le critère d'entrée au ciel, c'est la perfection. Combien d'entre vous, vous êtes parfaits? Ben moi, je suis imparfait, je dois vous l'avouer. Peut-être que je suis seul ici, là, mais moi, je suis imparfait. Donc, moi, j'avais besoin d'un sauveur pour me pardonner. Parce que le critère d'entrée est trop élevé pour moi. C'est trop élevé pour Joel Spinks. Moi, j'ai été pécheur. Moi, j'ai chuté. Moi, j'ai déjà menti. J'ai déjà fait des gaffes dans ma vie. Donc, si on est assez humble et on dit, je réalise que j'ai besoin d'être pardonné, mais voilà, Dieu dit, merveilleux, c'est merveilleux, je vais vous laver, vous purifier, et faire de vous des personnes parfaites, pas en vous-même, mais dans votre position en Christ. Quand on accepte Jésus, on rentre dans cette position d'homme et de femme parfaite. N'est-ce pas merveilleux? Donc, aujourd'hui, devant vous, vous voyez un homme parfait. C'est merveilleux. Amen. Et à côté de vous, probablement, si la personne a été pardonnée, cette personne-là est parfaite aussi. Puis là, vous dites, « Ben moi, j'ai pas encore été pardonné. » Ben heureusement, vous aussi, vous pouvez devenir parfait. On est une gang de parfaits ici. Amen. Mais ça, c'est dans notre position en Christ. Notre condition doit changer parfois. Des fois, on perd les nerfs. Des fois, on a toutes sortes de problèmes, hein, charnels. Mais heureusement, Dieu n'est pas au ciel. Il dit, Colin Debine, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, Dieu a une façon de nous changer, de nous transformer. Et même heureusement, Dieu il nous abandonne pas comme ça. On va aller au verset 4, encore une fois. Verset 18. On va aller au verset 18 du même chapitre, Éphésiens 2, 18. Ça dit, « Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même Esprit. » Voilà, nous avons même accès maintenant, parce que nous avons été pardonnés, nous avons accès auprès du Père. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu, vous faites partie de la famille de Dieu. Avez-vous remarqué ça? Vous faites partie de la famille de Dieu. Ça, c'est une super de belle famille, je peux vous dire. Il y en a qui disent, surtout les petites filles, « Si seulement j'avais été une princesse, j'aurais fait partie de cette famille royale. » Mais nous, on est les enfants de Dieu, on était adoptés dans cette famille, on était spirituellement morts, mais là, on est revenus à la vie et on a été adoptés dans la famille royale de Dieu et on fait tous partie de la belle famille de Dieu, famille royale, avec des privilèges, gloire à Dieu. Ensuite, au verset 20, ça dit, « Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni au Christ, vous avez été intégrés ensemble, dites ensemble, à cette construction pour former une demeure où Dieu habite. » Par l'Esprit. Non seulement ce que nous avons été pardonnés, mais en plus, le Créateur de l'univers décide de venir nous habiter par son Saint-Esprit. N'est-ce pas absolument merveilleux? Quand on dit oui à Dieu, on est pardonné, on est totalement pardonné. Tous nos vieux péchés sont placés dans la mer de l'oubli. Dieu, il dit, je veux même plus m'en rappeler de vos vieux péchés. Et en plus, son Saint-Esprit vient nous habiter. C'est merveilleux. Gloire à Dieu pour tout ça. Donc, vous dites, ben ça, pasteur, je connais ça. Je sais que j'ai été sauvé, je sais que j'ai été lavé. Mais pourtant, même si on connaît intellectuellement cette réalité, on le sait que Dieu nous a pardonné. Pourtant, même si on le sait qu'on fait partie de la famille de Dieu, pourtant, souvent dans nos vies chrétiennes, on vit d'une façon indépendante ou isolée du corps de Christ. Et puis je vous dis ça ce matin, et je crois vraiment que c'est l'Esprit de Dieu qui voulait vous encourager là-dessus. C'est que même si on était sauvé, même si on le sait qu'on fait partie de la famille de Dieu, souvent, même si on est physiquement à l'Église, parfois dans nos pensées, dans nos têtes, on est isolés de nos frères et de nos sœurs. Et pourtant, on fait partie du même corps. On fait partie du corps de Christ. Dans 1 Corinthiens 12, 13, ça dit, nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. On fait partie du corps de Christ, mais pourtant, souvent dans nos vies chrétiennes, à cause de 10 000 raisons, on s'isole du corps de Christ, puis on pense, bien, le corps de Christ est béni, mais pour une raison, et peut-être vous en avez plusieurs, dans vos pensées, vous êtes isolés. Et ce matin, ce qu'on veut faire, c'est enlever l'isolation. On veut enlever ce qui vous sépare du corps de Christ. Et ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est vraiment vous permettre à découvrir que vous êtes aimés de Dieu. Et non seulement ça, c'est que Dieu veut que vous puissiez marcher dans cette famille spirituelle, sachant que vous n'êtes pas des moins que rien. Amen. Des fois, il y a plein de chrétiens qui se pensent, moi, je suis nul, je suis seul qui comprend pas, je suis seul qui vit pas de victoire, je suis seul qui est comme ci, comme ça. On dirait qu'il y a plein de gens à succès. Et cette semaine, il y a des gens qui me disaient ça. On dirait qu'il y a plein de gens à succès dans l'Église, des gens qui ont des victoires, des gens qui ont ci, puis ça. Pour eux, ça va bien, mais comment ça? Pour moi, ça va pas bien. Peut-être certains d'entre vous comprenez, vous identifiez à ce que cette personne-là me disait. En fait, il y en a plus qu'une personne cette semaine qui me partageait ça, des combats. Et moi, je crois que c'est le cœur de Dieu aujourd'hui qu'on puisse voir que cette victoire puis cette vie chrétienne, selon la parole de Dieu, est disponible pour tout le monde. Amen? Amen. Amen. Je vais vous inviter à tourner dans 2 Corinthiens chapitre 10 et le verset 12. Quand on se sépare mentalement, intellectuellement du corps de Christ, en fait, on a cru un mensonge. On a cru le mensonge de l'ennemi. C'est des illusions que l'ennemi met devant nous. Il va vous dire, par exemple, mais toi, tu es spirituellement inférieur aux autres. Dieu aime tout le monde. Puis des fois, on peut même croire intellectuellement que Dieu nous aime, mais c'est comme on est spirituellement inférieur. C'est comme dans ma connaissance, je me dis, ben moi, je connais pas assez bien la Bible. Mes frères et sœurs, moi, je les entends parler, ils sont toujours en train de citer la parole de Dieu, les promesses de Dieu, ils connaissent comme ça. Mais moi, je me sens un petit peu nul là-dedans. Je ne connais pas les versets par cœur. Je ne connais pas les références. Ma connaissance n'est pas là. Il y en a d'autres aussi qui vont dire, oui, mais moi, ça fait des années que je prie pour une guérison. Ou dans ma famille, je m'attendais à telle chose. Je m'attendais à des victoires. Puis pourtant, je ne les ai pas encore. Puis je me sens, à cause de ces choses-là, à cause des circonstances et à cause des choses que je vois présentement dans ma vie, je me dis, je suis inférieur. Et je me pense même nul. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on comprenne qu'il n'y a aucun de ses enfants qui sont considérés, selon le cœur du Père, comme étant des nuls. Amen. Puis aujourd'hui, je crois il y a cette séparation-là qui se produit. Des fois, on pense qu'on est inférieur. Et parfois aussi, qu'est-ce qui se passe dans nos églises? Certaines personnes vont penser, ben moi, je suis supérieur aux autres. Qu'on soit inférieur ou qu'on se voit supérieur, le fait demeure qu'on n'est pas avec les autres. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Puis c'est comme ça que l'ennemi réussit dans une église, nous garder séparés. C'est comme ça que l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à détruire nos vies spirituelles parce qu'il est en train de nous isoler dans notre camp tout seul. Il y a la personne qui se pense, moi, j'ai vécu des choses dans l'Esprit de Dieu et je suis le seul à avoir vécu ces choses-là intimes avec le Saint-Esprit. Et je vois mes frères et mes sœurs, ils n'ont pas goûté à ce que j'ai goûté. Ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. Donc, moi, je suis supérieur, du moins dans mon expérience avec Dieu. Et ça, mon frère, ma sœur, je peux vous dire, ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour vous de voir comme ça. Certainement, peut-être, vous avez vécu des expériences surnaturelles avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Mais ça ne vous changera jamais de catégorie. Dieu vous aime comme celui qui n'a absolument rien vécu de surnaturel. Comprenez-vous ça? Notre valeur ne dépend pas de notre expérience spirituelle. Si vous avez dit oui à Jésus, puis c'est tout ce que vous avez vécu, c'est de recevoir le pardon, mais gloire à Dieu, Dieu vous aime autant que celui qui a vécu une expérience au troisième ciel. OK? C'est une chose, des fois, on va s'isoler, soit on est plus haut que les autres, ou on est inférieur, mais qu'est-ce qui demeure, c'est qu'on n'est jamais avec le corps de Christ. Donc, notre vie chrétienne se vit isolée, et quand on est isolé, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'ennemi vient nous attaquer, on est plus fragile, on est plus susceptible à vivre des désastres dans nos vies spirituelles. Et c'est important, je crois, selon le cœur de Dieu, aujourd'hui qu'on puisse s'arrêter pendant quelques instants et voir, Seigneur, est-ce que dans ma tête, même si je suis ici chaque dimanche, même si je suis pas isolé du corps de Christ. Mais si dans mes pensées, je suis isolé, si j'ai construit des murs dans ma tête, me disant, moi, je ne suis pas avec les autres là-dedans, dans cette marche avec Jésus, à cause de mille raisons. Aujourd'hui, je crois que le Seigneur, ce qu'il veut faire, c'est enlever les barrières qui nous isolent du corps de Christ. Je crois que le cœur de Dieu pour ses enfants, c'est qu'on puisse tous s'unir dans la foi sous le nom de Jésus-Christ, peu importe l'expérience que nous avons vécue ou que nous n'avons pas vécue, on puisse tous aujourd'hui s'unir sous la bannière de la croix. Amen. Ça, c'est le cœur de Dieu. Vous savez, il y a des gens de toutes sortes de milieux parmi nous. À l'Église à Victoire, je pourrais vous nommer les dénominations qui sont représentées ici. On a des gens qui viennent du milieu catholique, qui ont rencontré le Seigneur Jésus, qui ont été sauvés, nés de nouveau, gloire à Dieu. Il y en a d'autres qui viennent des églises pentecôtistes qui sont avec nous. Il y en a d'autres qui viennent des églises baptistes. Il y en a d'autres qui viennent également de la Bible parle. On a d'autres mouvements prophétiques. Nommez-les, on les a à l'Église de la Victoire du Québec. Et une des choses qu'on va comprendre ensemble, on va voir plein de choses ici, c'est que Dieu a travaillé par son Saint-Esprit dans le cœur de plein de personnes dans cette place. Il y a plein de personnes ici qui ont vécu une expérience avec Dieu. Et qu'est-ce qu'on va apprendre? C'est même si on vient de toutes sortes de milieux différents, même si on a tous reçu quelque chose, une expérience précieuse avec Dieu, qu'est-ce qui est merveilleux? C'est qu'on peut fusionner quand même ensemble et devenir une famille qui aime Dieu passionnément. Parce que qu'est-ce qui nous unit? C'est pas parce qu'on a tous été sauvés à la même place nécessairement. Là, on peut dire, ben là, on a tous les mêmes doctrines, donc on peut marcher ensemble. Donc, qu'est-ce qui est merveilleux? C'est que nous avons tous été sauvés par la même personne. C'est ça qui nous unit et c'est ça qui fait en sorte qu'on s'aime vraiment. Moi, là, je crois, et une des raisons, je crois, pourquoi le Seigneur nous a attirés venant de toutes sortes de milieux, je crois que le Seigneur est en train de préparer quelque chose ici pour rejoindre des personnes dans la francophonie. Croyez-vous ça? Moi, je crois que le Seigneur est en train de préparer une armée remplie de personnes sensibles. Des personnes sensibles. Quelqu'un arrive d'une dénomination différente, mais puisque j'ai déjà mon frère ou ma sœur dans mon église qui vient de cette dénomination-là, moi, je vais pouvoir être compatissant avec la personne qui vient d'arriver sans vivre dans le jugement et sans vouloir écraser les gens. Savez-vous ça? Dieu a fait en sorte, il nous a attirés par son Saint-Esprit. Nous n'avons jamais fait de recrutement pour des gens de d'autres assemblées. S'il y a des gens qui sont ici, la majorité, je peux vous dire, la majorité avait arrêté d'aller à l'église, tellement qu'ils avaient été brûlés. Je peux vous dire, ça c'est notre réalité. La majorité des gens dans cette église, c'était des gens qui avaient arrêté d'aller à l'église, qui avaient été brûlés spirituellement. Et là, nous, dans nos temps de prière, on a dit, Seigneur, attire tes enfants qui ont été brisés, attire les personnes qui ont besoin d'une famille chrétienne, attire-les par ton Saint-Esprit. Seigneur, que ton Saint-Esprit soit l'agent qui recrute les personnes. Je peux vous dire, on est là, gloire à Dieu, puis il y en a certains d'entre vous, ben gloire à Dieu, vous êtes arrivés déjà guéris, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce qu'on veut voir ici? C'est vraiment que Dieu est en train de façonner quelque chose d'absolument merveilleux, et je crois que c'est un prototype pour ce que Dieu va faire dans la francophonie. Vous savez, moi, étant quand même un jeune homme dans le ministère, j'ai côtoyé plein de personnes de différentes dénominations, surtout dans le monde de la télévision, qu'est-ce qui se passait? J'ai rencontré des gens de toutes sortes de dénominations, et je pouvais participer dans des aliments avec des gens de toutes sortes de dénominations. Et ceux de mon âge, ils s'en foutent pas mal de l'étiquette sur les fronts des gens. Vous allez voir ça. Les gens de mon âge, habituellement, on pouvait être ensemble. On avait plein de gens sur l'estrade de toutes sortes de milieux. Et on louait le Seigneur ensemble. On s'aimait. On parlait pas de doctrine qui nous divisait. Comprenez-vous? Ça, c'est ma génération. Mais je crois aussi que le Seigneur veut faire ça parmi nous ici. Amen. Gloire à Dieu. L'une des choses, juste concernant ceux qui sont peut-être un petit peu supérieurs, qui se pensent supérieurs, on va voir ce que Dieu en dit. 2 Corinthiens 10, verset 12, ça dit, « Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. » Ceux qui se comparent aux autres. Là, j'ai dit tantôt que je vais vous dire, c'est qui les nuls parmi nous? Ça dit, il manque d'intelligence. Si on se compare et si on pense qu'on est meilleur que les autres, OK. Amen. Je vais vous parler des faux concepts qu'on a de la vie chrétienne. Aujourd'hui, on parle de la vie chrétienne pour ceux qui se pensent nuls, pour ceux qui se pensent nuls. On va parler des faux concepts. Une des choses, on a déjà dit, ben, c'est de penser qu'on est supérieur ou qu'on est inférieur. Et là, à cause de notre performance, à cause de notre connaissance, à cause de nos victoires, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on peut faire le ménage de dire, non, ça, c'est pas moi. Je suis pas inférieur, je suis pas supérieur. Je suis en Jésus-Christ et je suis parfait à cause de ma position en Christ. Amen? Mais il y a d'autres choses qu'on doit voir, devoir également. C'est ma maturité. Il y a des faux concepts. Si je suis un vrai chrétien, si je suis vraiment un enfant de Dieu, bien, j'ai besoin d'avoir une maturité vraiment exponentielle, super rapide, style micro-ondes. Et là, si je ne suis pas assez mature rapidement, je me décourage, puis je me dis, je suis frustré, je ne comprends pas. Et vous savez, le Seigneur, ce qu'il veut pour nous, pour chacun d'entre nous, c'est qu'on soit dans cette famille. Et oui, le Seigneur désire certainement notre maturité, mais jamais au prix où on va se décourager avec soi-même et dire, on dirait, j'arrive pas. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'on marche dans la famille chrétienne. Et comme on marche ensemble dans cette armée spirituelle, comme on marche ensemble, on côtoie des personnes qui ont vécu des expériences avant nous. Et là, on peut apprendre de nos frères et de nos sœurs. Certainement, on va étudier la parole de Dieu. Certainement, on va prier. On va entendre la voix du Seigneur qui nous guide, tout ça. Mais on est dans une famille chrétienne et on peut bénéficier des relations qu'on a dans l'Église. Amen. Donc, la maturité rapide ou atteignable, seule, isolée, ça ne marchera pas. Et ça, des fois, c'est des illusions, on pense. Mais moi, il faut que je grandisse. Et quand je vais être assez mature, là, je vais pouvoir me joindre aux autres qui sont tous hot et qui ont du succès. Mais ça, c'est faux comme raisonnement. Ou aussi une série de victoires. La vie chrétienne, c'est une série de victoires sans attaque, sans défi. On est juste dans la victoire. 365 jours par année, juste la victoire. Et moi, je vous dirais oui. On est toujours dans la victoire parce que notre victoire a été acquise par Jésus il y a 2000 ans. Sauf que c'est pas une victoire sans attaque. On est dans la victoire. Nous sommes en Jésus-Christ le victorieux. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut me tirer vers le bas. Donc, il va m'attaquer. Il va m'attaquer dans mes pensées. Il va m'attaquer dans mon corps. Il va essayer de me rendre malade. Il va essayer toutes sortes de choses pour me tirer vers le bas. Donc, si je suis en bas, et si l'ennemi m'a frappé, et puis là, et, par exemple, s'il a réussi à me faire penser que j'étais un nul, admettons, si il m'a donné ce mensonge-là et j'ai commencé à méditer sur ces choses-là, puis là, j'ai commencé à me comparer, puis me dire, oui, c'est vrai, eux sont meilleurs que moi, eux, ils vivent plus de succès, puis moi, je suis moins que rien. Et là, j'ai commencé à entretenir des pensées comme ça, et là, je suis vers le bas. Ce que le Seigneur veut pour moi, c'est que j'enlève l'illusion que la victoire ne passera jamais au défi. L'ennemi, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir contre l'enfant de Dieu, il va venir contre le victorieux. Le fait d'être attaqué par l'ennemi ne fait pas de moi quelqu'un de défaite. Comprenez ceci. C'est pas parce que vous passez à travers des épreuves, c'est pas parce que l'ennemi vient vous tenter, c'est pas parce que l'ennemi vient vous mentir que vous n'êtes plus dans la victoire. Comprenez ceci. Je suis dans la victoire 365 jours par année. Mais je peux vous dire que des fois, je le sens pas. Des fois, je me sens pas dans la victoire. Des fois, je me sens écrasé. Je peux vous dire, il y a des fois, là, on a ressenti la présence de Dieu. Des fois, le Seigneur fait en sorte que je proclame des choses qui dérangent des esprits religieux. Ça l'arrive des fois à l'Église de la Victoire. Des fois, je dis des choses et je sais que c'est ça que Dieu voulait que je dise. Et je sais, par la suite, on a vu des personnes délivrées, libérées de toutes sortes d'affaires. Mais là, je peux arriver chez nous et là, l'ennemi qui vient et dit, toutes sortes de mensonges. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'aime pas se faire déranger dans son royaume. Quand le royaume de Dieu avance et le royaume de Dieu de l'ennemi recule, bien l'ennemi, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque. Et enfant de Dieu, comprenez ceci, même si vous vivez des attaques, ce n'est pas un signe que vous êtes des moins que rien. Ce n'est pas un signe que vous êtes un nul. C'est important parce que la façon qu'on pense, ça détermine notre futur. Il y a plusieurs personnes qui disent, « Oui, mais moi, tu connais pas ce que j'ai vécu. » Savez-vous ceci? Peu importe ce que vous avez vécu dans votre passé, ne permettez pas à votre passé de déterminer votre futur. Ne permettez pas à votre passé. Si on parlait avec les gens de cette assemblée, il y a toutes sortes de péchés dans cette église, dans le passé. Si on allait plonger dans la mer de l'oubli et on sortait les vieux péchés, on en dirait pendant longtemps. Mais heureusement, on ne va pas dans la mer de l'oubli. On ne va pas sur cette plage-là. Elle n'est pas belle, elle est très sale. Mais qu'est-ce qu'on fait? On oublie ces vieilles choses. Si vous pensez, oui, mais je suis le seul qui a vécu ça, ou je suis le seul qui a fait ça, je pourrais vous dire, je pourrais étaler tous les péchés des personnes que j'ai connues dans cette église. Je pourrais mettre sur PowerPoint, puis je pourrais vous dire, regardez, il y en a des pires que vous. Mais là, je me compare, il y en a qui sont mieux que moi. Oui, mais il y en a des pires aussi. Comparez-vous pas, ne vous comparez pas. On ne veut pas se comparer. Amen. Il y a des fausses pensées, des faux concepts, des illusions que l'ennemi met devant nous. Ah, faut que je sois dans une victoire sans attaque, mais le seul temps où vous n'aurez plus d'attaque, c'est le moment où vous serez mort. Quand vous allez mourir, là, vous n'aurez plus d'attaque. Mais combien d'entre vous voulez mourir? Non, hein? Bon. Ça fait que si on continue à marcher avec Dieu. Une autre pensée erronée sur la vie chrétienne, c'est que l'Église ou la vie chrétienne avec Dieu, c'est un ensemble de doctrines rassembleurs qui nous unit. Parfois, on pense que c'est ça. Pour être un chrétien fidèle, pour marcher dans la vie chrétienne normalement, mais ça veut dire que moi, je dois avoir toute la même doctrine que mes frères et sœurs, et c'est ça qui va nous rassembler. C'est une doctrine 100% identique. Je peux vous dire, c'est certain que quand on est dans une assemblée, c'est important et c'est bon de croire la majorité des choses semblables. Parce que sinon, c'est très fatigant. Admettons, moi, ça revient souvent que je dis que Dieu est bon. Mais si dans votre tête, vous êtes 100% convaincu que le bon Dieu, il est vraiment détestable et méchant, bien, ça va vous taper sur les nerfs d'être dans mon église. Ça va vous taper sur les nerfs d'être dans cette assemblée parce que ça va toujours venir vous graffiner. Non, Dieu est méchant. Non, ici, Dieu est bon. Pourquoi ici? Mais parce que c'est Dieu qui le dit dans sa parole. Il dit que c'est un bon Dieu. C'est sûr que dans l'ensemble, c'est important de comprendre et de marcher dans la même direction. Ceci dit, ce qui nous unit, ce n'est pas la doctrine. C'est-à-dire, ah, comment ça? C'est certain, comme je vous dis, c'est important. La parole de Dieu, certainement. Mais premièrement, il faut comprendre qu'est-ce qu'on veut, c'est cet amour, frères et sœurs. Quand on va arriver au ciel, vous allez découvrir que certaines doctrines que vous croyez, que vous pensiez que, hey, moi, j'étais sûr, c'était ça, vous allez découvrir que vous vous étiez trompé. Est-ce que ça se peut, ça? Donc, qu'est-ce qui nous unit? C'est l'amour, les frères et les sœurs ensemble. Amen. Je vais vous montrer ça dans la parole de Dieu. Juste premièrement, une autre chose que je veux vous partager, c'est que quand moi, j'étais plus jeune, je voyais des gens à l'école. J'étais à l'école, comme tout le monde, au secondaire. Et moi, étant adolescent, moi, j'ai, comme vous savez, j'ai marché avec Dieu depuis l'âge de 3 ans. J'ai accepté Seigneur quand j'avais 3 ou 4 ans. Puis j'ai marché avec Dieu. Mais comme je grandissais dans les voies de Dieu, moi aussi, j'ai passé par des périodes où je me trouvais un petit peu nul. Je me disais, ah, mais il y a des choses que je comprends pas. Des fois, je pensais que les questionnements, c'était mauvais. Comme si se poser des questions, ça voulait dire qu'on était nul. Mais non, c'est pas nul de se poser des questions. Des fois, je me comparais et je voyais des gens à mon école, au secondaire, qui faisaient partie d'une secte. Ici au Québec. Et là, je rêvais. Si seulement j'étais dans une secte, ça serait donc plus facile. J'ai dit, mais comment ça tu dis ça? Mais je voyais ces gens-là dans une secte, puis je me suis dit, eux autres, ils ont juste à lire une petite revue, puis ils vont tous savoir quoi croire. Moi, j'étais obligé de lire la Bible, puis tout discerner quelle est la bonne chose. Puis là, j'étais adolescent, puis eux autres, c'est donc bien simple, ils ont toujours des petits livres, ils se font dire quoi croire. Moi, il faut que je lise la Bible, il faut que je prie mon Seigneur pour savoir quelle est la vérité. C'est vrai, ça? Si on veut juste une doctrine rassembleur, joignez-vous à une secte. Ils vont vous dire quoi croire. Vous n'aurez même pas besoin de penser, vous n'avez pas besoin d'intelligence. Vous dites, ils disent, la petite revue qu'on vient d'imprimer, ça dit ça, c'est ça que tu crois. Ah, OK. Mais on n'est pas dans une secte. Une secte vous dit quoi penser, quoi croire. Nous, on est des enfants de Dieu, qu'on est adoptés dans la famille de Dieu, et ça donne qu'on est libre. On peut croire, on peut lire la parole de Dieu et dire « Le Saint-Esprit me révèle des choses. Gloire à Dieu. » Et là, on est conduit par l'Esprit de Dieu et le Seigneur fait en sorte qu'on avance spirituellement. Donc, c'est pas juste la doctrine qui nous rassemble, c'est l'amour de Christ. Parce que sinon, on pourrait juste se joindre à toutes sortes de sectes qui croient toute la même chose. Une autre chose, des fois, où on pense que la vraie vie chrétienne, c'est l'étiquette crédible. Admettons, je suis pentecôtiste, c'est crédible, je suis ça, moi, là. Ou il y en a d'autres, ben moi, je suis catholique, c'est ça, être chrétien, c'est d'être catholique. D'autres vont dire, ben c'est d'être baptiste. Si je suis baptiste, un bon baptiste, ben là, je suis vraiment sauvé. Il y en a d'autres qui vont dire, ben moi, je suis un méthodiste. Et il y a plein de istes dans le monde chrétien. La vraie vie chrétienne ne se définit pas avec un iste. La vraie vie chrétienne, c'est d'avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ. C'est d'avoir été lavé, purifié de tous nos péchés. C'est aussi simple que ça. En fait, le fait de s'identifier dans notre marche chrétienne à un groupe et dire que moi, je suis sauvé à cause, j'appartiens à ce groupe-là, en fait, moi, je remets même en question le salut d'une personne comme ça. Parce qu'au lieu de s'identifier à celui qui a payé notre dette de péché, on s'identifie à une structure humaine. On va regarder ensemble dans 1 Corinthiens 3, verset 4. 1 Corinthiens 3, verset 4, ça dit, « Lorsque vous dites, moi je suis pour Paul ou moi pour Apollos, n'agissez-vous pas comme les autres hommes? N'êtes-vous pas charnels? Si notre appartenance, c'est juste dire, « Ben moi, je suis un chrétien à cause, j'appartiens à tel groupe, tel mouvement, telle religion », on passe à côté bien des choses. Amen. Donc, ce matin, ce qu'on a vu jusqu'à date, qu'est-ce qu'on vient de voir, là? C'est que la vérité de notre salut, c'est en Jésus. Il y a toutes sortes d'illusions, des mensonges que l'ennemi dresse devant nous, que l'ennemi va semer dans nos têtes. Et ce matin, si on dit, OK, moi, ce que je veux faire le ménage. Si j'ai des vieux concepts qui me gardent isolé du corps de Christ, ces concepts-là qui me font penser que je suis nul, aujourd'hui, je vais faire du grand ménage. Le ménage du printemps, mais en hiver. Êtes-vous d'accord? Aujourd'hui, on va faire du ménage. Combien d'entre vous, vous êtes là, vous dites, moi, je vais faire du ménage. Si j'ai des faux concepts qui m'isolent du corps de Christ, même si je suis là physiquement, mais qui me gardent isolé, aujourd'hui, je vais faire du ménage. Amen? Moi, je vais faire du ménage. Donc, une des choses qu'on veut voir, c'est que la vie chrétienne, ce n'est pas un sprint, mais c'est un marathon. C'est un chemin, c'est un grand cheminement avec le Seigneur. Et c'est ça qu'on veut voir ensemble. La vraie vie chrétienne, c'est un voyage et une aventure avec le Dieu vivant. Si vous avez cru que la religion, c'était ça la vie chrétienne, juste connaître des choses intellectuellement, mémoriser des choses, comprenez. Dans le corps de Christ, certainement il y a des églises. Le fait d'appartenir à une église qui s'appelle pentecôtiste, baptiste, c'est pas ça le problème. C'est qu'est-ce qu'on en fait dans nos cœurs. Comprenez-vous, c'est toujours une question de notre cœur. Comprenez bien ceci. Mais ce que le Seigneur veut pour nous, c'est qu'on puisse vraiment comprendre que ma vie chrétienne, c'est vraiment cette aventure avec le Dieu qui m'a sauvé. C'est un voyage. J'ai été sauvé cette date-là. J'ai rencontré la personne de Jésus cette journée-là. Je me suis levé. Et puis là, j'ai commencé à marcher avec lui. Et là, j'ai commencé à découvrir la splendeur de ce grand bon Dieu. Ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, comme on a mentionné la semaine passée, j'ai découvert mon Créateur. J'ai rencontré cette personne qui m'a aimé quand j'étais détestable. Là, moi, je commence à marcher avec lui et là, je vis cette aventure glorieuse sur la terre. Et là, je commence à célébrer mon Dieu parce que je réalise que, wow, ce Dieu-là est tellement grand, tellement glorieux. Il y a tellement des belles provisions pour moi. Non seulement ce qu'il m'a pardonné pour que je puisse aller au ciel avec lui, mais en plus, il me promet l'éternité avec lui dans la gloire, dans la joie, dans la paix, toutes ces choses merveilleuses-là. Amen. Bon, c'est bon ça. C'est bon de réaliser qui nous sommes. C'est pas un sprint. Donc, ne vous permettez pas d'être découragé parce que vous évaluez votre performance présente ou votre évolution présente. Si vous dites, ça fait 25 ans, puis on dirait, je suis pas avancé, on dirait qu'il y en a d'autres qui sont plus avancés que moi. Aujourd'hui, vous faites le ménage des comparaisons. Amen? J'arrête de me comparer avec les autres. J'ai pas besoin de me comparer avec les autres parce que je marche main dans la main avec Jésus et j'ai confiance que ce Jésus va m'emmener au bon port. Si je marche dans ce voyage avec Dieu. Amen. Là, je vais vous montrer un passage en parole de Dieu dans Matthieu 14. C'est un bon passage. Ça va vous réjouir. Tous ceux qui se pensent des losers. Matthieu 14, On va aller au verset 22. Matthieu 14, verset 22. Ça dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Ici, on parle de Jésus. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Verset 25. À la quatrième veille de la nuit, ça c'est entre 3 et 6 heures le matin, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Si c'est assez remarquable, imaginez, vous êtes un disciple dans la barque, et là vous voyez quelqu'un qui s'en vient vers vous, marchant sur la mer. Verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme! Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Remarquez l'exploit ici. Pierre, qu'on connaît bien dans la parole de Dieu, quelqu'un qui dit toujours des bêtises. Pierre, qui a un petit peu de problème peut-être avec son tempérament. Il est un petit peu vite à parler. Il fait toujours des gaffes. Mais Pierre marche sur l'eau avec Jésus. Mais là, il y a toujours des gens qui vont dire, oui, mais regarde le verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi! Voyez, Pierre, là, c'est pas un homme très, très, très intellectuel ou très spirituel ici, là. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Là, je veux vous faire remarquer verset 32. Ça dit, « Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. » Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Pierre aurait pu se sentir comme un vrai loser s'il avait gardé son focus sur son échec. Mais si on pense à ça pendant quelques instants, Pierre a sorti de la barque et puis a commencé à marcher sur les eaux. Pour moi, là, c'est assez phénoménal. Je trouve ça assez cool. Mais lui, là, il aurait pu dire, « Ben regarde, je suis nul, j'ai coulé dans l'eau. » Mais s'il n'avait jamais marché sur l'eau, il n'aurait jamais coulé. Des fois, on est là et on se dit, « Ben regarde, je voulais faire ça pour aider quelqu'un à l'église. Je voulais faire ça, j'ai commencé puis j'ai coulé. Je me suis trompé. » Ben oui, join the club. On va en faire des gaffes. Ceux qui ne font pas de gaffes, ceux qui sont là, qui font jamais de gaffes, c'est ceux qui ne font rien. C'est vrai. Si on ne fait rien, puis on est spectateur, puis on évalue tout le monde, puis on passe notre commentaire, puis on met nos cotes d'évaluation, ben lui, c'est un 7 sur 10. Elle a chanté un matin, elle, c'est un 8.5. Mais il manquait un peu d'onction, celle-là. Ouais, tu as remarqué ça? Un petit peu d'onction qui manquait. Je trouve l'autre fois, là, c'était un petit peu mieux. Et là, on passe nos évaluations, mais quand on fait rien, c'est ça qu'on peut faire, évaluer. On passe notre temps à évaluer. Mais remarquez-moi, là, qu'est-ce qui m'a vraiment béni, là, c'est en lisant, on sait que Jésus, il voulait l'enseigner, là. OK, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Verset 32, et ils montèrent dans la barque. Devinez, c'est qui? C'est pas une autre personne, c'est Jésus et Pierre. Qui ont retourné et ils montèrent dans la barque. Ils ont embarqué ensemble. Savez-vous qu'est-ce que moi je crois? Jésus l'a saisi par la main, il est en train de couler. Il l'a saisi. Et là, je crois que Pierre a continué à marcher pour embarquer dans la barque avec Jésus, mais en tenant la main de Jésus. Même si on coule, même si on fait des erreurs, même si des fois on se pète le nez, on tombe à terre en pleine face, même quand on fait des gaffes, Jésus ne dit pas, c'est un nul, j'aurais pas dû l'avoir dans ma famille. Il dit jamais ça. Il dit, écoute, il relève, il saisit par la main, puis ah ouais, je vais t'aider à rembarquer dans la barque. Et c'est comme ça, ne perdez jamais espoir, ne pensez jamais que vous êtes un nul parce que vous avez fait des gaffes, ou parce que vous ne connaissez pas assez des choses, ou parce que votre passé est trop noir ou trop sombre. Non, mais gardez votre foi dans le Seigneur. Amen. Une chose importante aussi, j'avais à cœur à vous partager, c'est que pendant longtemps, admettons si vous avez défini votre vie chrétienne par l'étiquette qui était sur votre front, Peut-être vous étiez diacre dans une autre église. Peut-être vous aviez même prêché et là, c'était prédicateur. Peut-être vous étiez chanteur international, mondialement. Et là, c'est écrit sur votre front. Admettons, vous aviez toutes sortes de titres et votre valeur était dans ces choses-là. Et tout d'un coup, quand vous avez perdu ces choses-là, vous êtes devenu nul à vos yeux. Vous êtes devenu comme inférieur. Je suis inférieur, je ne performe plus, je ne suis plus connu ou toutes ces choses-là. Ou avant, j'appartenais à une église respectable, j'avais ci, j'avais ça. Peu importe ces choses-là, ce que le Seigneur veut vous faire comprendre, c'est que votre valeur est en Jésus et en Jésus lui seul. Il vous aime avec un amour éternel. Et c'est pas parce que nous faisons des choses pour lui qu'il nous aime. Mais certainement, quand on a reçu son amour, là, on se met à le servir et c'est juste une façon qu'on le remercie. Notre service, c'est une façon de remercier le Seigneur. Puis, il y a une chose aussi, c'est que quand on a dit, ben regarde-moi là, j'ai été pendant certains temps dans cette église et je crois, mon identité a été là parce qu'on a vécu des choses dans la présence de Dieu. Il y avait quelque chose de surnaturel qui s'est passé et je sais c'était Dieu. Puis qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ça a tout viré tout croche maintenant. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais là? Mon identité était là. Je veux vous aider à comprendre ceci. Puis ça, c'est super important. Ça, on peut tous comprendre ça en tant qu'enfant de Dieu. C'est qu'il y a plein de courants dans le corps de Christ. Il y a plein de courants. Comprenez ceci. Quand je parle de courants, il y a des choses que le Seigneur a faites sur la terre dans son Église. Là, je parle de l'Église avec un grand E. L'Église universelle, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, qui ont été pardonnés, font partie de l'Église. Là, le cœur du Père s'est révélé dans un regroupement de personnes. Le Seigneur a fait quelque chose de surnaturel. Le courant était céleste, l'œuvre a été céleste et a été bénie de Dieu. OK? Ça, c'est une chose qu'on doit comprendre. Là, on voit dans un autre regroupement de croyants qui est ensemble, un courant céleste. Dieu a touché des gens. Dieu a fait des miracles parmi eux. Dieu a fait quelque chose d'authentique par son Saint-Esprit. Ça, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on a comme problème? C'est que les êtres humains ont reçu de Dieu quelque chose, mais là, ils ont bâti un monument en honneur du courant, au lieu de bâtir un monument de louange auprès de l'auteur du courant. Comprenez-vous? Donc, les méthodistes, par exemple, je parle des méthodistes parce qu'il n'y en a pratiquement pas au Québec, mais les méthodistes, eux, c'était des gens quand même méthodiques. OK? Il y avait beaucoup de structures. C'était merveilleux. C'était Dieu qui avait inspiré ces bonnes choses-là, des bons principes pour marcher dans l'ordre du Saint-Esprit. Ça, c'est merveilleux. Mais là, quand on a bâti le monument, admettons, et si on dit, ben, faut être méthodiste pour être sauvé, ou, ben non, vous faites sauver, mais vous êtes quand même une classe inférieure à nous, parce que vous n'êtes pas vraiment dans l'ordre du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on est en train de créer des idoles parmi nous. Ça, c'est dit, comprenez, c'est correct d'appartenir à une dénomination, c'est correct, il n'y a pas de problème, c'est pas ça. Si votre cœur appartient véritablement à Jésus-Christ, bien, c'est merveilleux, c'est correct d'avoir appartenu à ça. Mais si notre identité est là, on a un problème. Une des choses que j'ai vues, c'est comme je vous disais tantôt, j'ai côtoyé des gens de toutes sortes de milieux. Quand j'étais à la télévision, j'ai passé des baptistes en entrevue, des pentecôtistes, des gens qui ont connu Dieu, qui ont rencontré Dieu, toutes sortes de personnes, de toutes sortes de courants. Et moi, en tant qu'animateur, est-ce que je pouvais dire, « Mais toi, vu que tu n'es pas dans mon mouvement, oublie ça, tu n'es pas dedans, là, mon homme. Je ne peux pas penser comme ça. » Non, c'est authentique. Dieu a vraiment fait quelque chose. Dieu a vraiment touché cette personne. Dieu a vraiment guéri cette personne-là, malgré qu'ils ne sont pas dans ma boîte. Mais qu'est-ce que Dieu veut, là? C'est que notre définition, notre identité ne doit pas reposer dans un mouvement, enfant de Dieu. On doit se repentir si notre identité... C'était parce que moi, j'appartiens à tel mouvement, je suis vraiment hot. Amen. Mon identité, qu'est-ce que Dieu veut pour nous maintenant? C'est que mon identité doit être avec ce que la parole de Dieu nous dit. On va voir Éphésiens 5, verset 8. On va aller ensemble dans Éphésiens, chapitre 5, verset 8. Il n'y en a pas de nul parmi nous. Il n'y en a pas de nul parmi nous. Parce que nous croyons aujourd'hui ce que Dieu a dit. Éphésiens 5, verset 8, c'est dit, « Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. » Vous appartenez à la lumière. Amen. Moi, j'appartiens à la lumière. Dans Jean 1:1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans le psaume 119, verset 105, ça dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Aujourd'hui, je peux vous dire, je suis dans la lumière parce que ma vie est selon la parole de Dieu. C'est mon guide. Mon guide est la parole de Dieu. Par le Saint-Esprit qui donne ses révélations pour qu'on puisse comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Donc, si on se dit, moi, je veux servir le Seigneur, j'aime Dieu passionnément, je veux vivre selon la volonté de Dieu, bien, ce que je veux faire, c'est marcher selon la lumière de la parole de Dieu. Si nous sommes tous ensemble, collectivement, nous sommes dans cette maison spirituellement, et nous disons ensemble, nous voulons vivre selon la parole de Dieu, bien, gloire à Dieu, Dieu peut faire quelque chose parmi nous, enfants de Dieu. Puis, si vous dites, oui, mais avant, je croyais ça, puis ça. Maintenant, Dieu t'a accordé une révélation sur sa bonté. Tout d'un coup, tu viens de réaliser que Dieu est là, il est pour toi, il n'est plus contre toi. Donc, si nous sommes dans la lumière, quand Dieu se révèle à nous, nous disons, oui, Seigneur, je vais prendre ta parole, je vais la laisser descendre dans mon cœur, je vais laisser cette parole porter du fruit dans ma vie, et je vais laisser le Seigneur transformer ma vie pour que je puisse vraiment être une lumière aussi dans le monde. Amen. Ça, c'est une des choses. Mon identité, c'est la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5:5, car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Gloire à Dieu. Deuxième chose que je veux voir concernant mon identité. Donc, la lumière, premièrement. Mais deuxième chose, c'est que je fais partie du corps de Christ. Je l'ai mentionné tantôt, mais je fais partie du corps de Christ. Dans Jean 13, verset 35, c'est dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Est-ce que c'est possible que dans cette famille spirituelle, avec des gens venant de tous les milieux évangéliques qu'on veut, est-ce que c'est possible que les gens dans cette assemblée puissent vraiment s'aimer, malgré les différences? Moi, je crois que oui. Moi, je crois que c'est possible pour nous qu'on mette de côté les anciennes étiquettes, les étiquettes qui nous gardaient séparés dans le passé. Et on dit, j'enlève l'étiquette et aujourd'hui, je peux m'identifier comme étant un enfant de Dieu. Je suis dans cette maison, un enfant de Dieu, j'ai été pardonné, j'ai été lavé et aujourd'hui, je peux côtoyer mon frère et ma sœur de toutes sortes d'arrière-plans parce que, savez-vous qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il les a pardonnés parfaitement comme il m'a pardonné. Amen. En plus, non seulement est-ce qu'on peut s'aimer véritablement, mais quand l'isolation est brisée, quand on sort de l'isolation intellectuelle ou mentale ou spirituelle, quand on est prêt à côtoyer les frères et les sœurs qui sont là, savez-vous qu'est-ce qu'on va faire? L'amour va passer à l'action. L'amour va se révéler. Savez-vous comment elle va se révéler bibliquement? Acte 2:42, ça dit, en parlant de l'Église primitive, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Oui, certainement, on va être à l'Église ensemble, on va écouter la parole de Dieu. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ça veut dire, on va manger ensemble, on va parler ensemble, on va discuter ensemble, on va prendre la Sainte Cène ensemble. On va vivre la vie d'Église ensemble, si on s'aime vraiment. Si mon frère qui vient d'arriver, où il a entendu toutes sortes de choses peut-être qui étaient contraires à la parole de Dieu, qui étaient juste selon la tradition des hommes. Quand il vient d'arriver dans la porte, ce que je vais faire, je vais tellement l'aimer que je vais prendre le temps, je vais manger avec lui, je vais l'écouter peut-être dire toutes sortes de niaiseries, puis je vais l'aimer. Il va dire toutes sortes d'affaires. Vous savez, moi j'ai un ami, il est allé à l'école biblique, il est allé au séminaire. Quand il est sorti du séminaire, il dit, Dieu ne peut pas guérir, Dieu ne peut pas faire ci, Dieu ne peut pas faire ça. Pendant une heure, je l'écoutais un monologue. Je l'aime beaucoup, là, super fin. Pendant une heure, il m'a dit tout ce que Dieu ne pouvait pas faire. Et là, après, j'ai dit, OK, est-ce que je peux te montrer un verset de la parole de Dieu? Ben oui. J'ai lu un verset. J'ai dit, mon frère, comment tu comprends ce verset-là à la lumière que tu viens de me partager? Il dit, oh, ouais, je ne sais pas vraiment. Voyez-vous, nos arguments, toutes ces choses-là qu'on peut essayer, c'est pas ça qui compte. Si on aime, on peut écouter. On peut écouter toutes sortes de niaiseries. Si on aime, on va le faire même. Mais après, on va partager la vérité de la parole de Dieu avec amour, pour gagner la personne, pour les emmener dans le bon chemin. Amen. Une autre chose qu'on va faire, quand on sait qu'on est en Christ, qu'on est vraiment dans sa volonté, le psaume 92, versets 12 à 14, ou selon certaines traductions, c'est 13 à 14, ça dit « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. » Une des choses, en tant qu'enfant de Dieu, moi, qu'est-ce que j'aime ici, c'est dit, il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ça veut dire, là, on a bien du temps à apprendre. On va même virer vieux. On va même rider. Ben oui! On se donne le temps. Ce n'est pas un sprint. La vie chrétienne, ce n'est pas un sprint. Je ne sais pas comment le dire en français, là. Mais c'est pas une course, là, le premier arrivé. C'est pas ça, c'est une marche. C'est une aventure avec le Seigneur Jésus. Imaginez comme Pierre qui a marché sur l'eau. Moi, là, je trouve ça assez trippant. Moi, je trouve que c'est assez trippant. Marcher sur l'eau. Je trouve que c'est une aventure. C'est une aventure. C'était pas prévisible. Il savait pas cette journée-là. Hey, c'est prévu sur mon agenda à 3h45, je marche sur l'eau. Non, c'était quelque chose d'absolument merveilleux. C'était juste à cause de sa relation avec Dieu. Amen. En terminant, je vais vous dire maintenant, c'est qui les vrais nuls. Et tous les mensonges que j'ai présentés ce matin, toutes les choses, vous dites, mais est-ce que c'est important de parler des mensonges qui nous gardent séparés, qui nous gardent isolés du corps de Christ? Oui, c'est important, parce que vous pouvez être dans cette église 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, jusqu'à 25 ans, 30 ans. Puis là, après, vous êtes toujours dans votre bulle d'isolement, pensant que vous êtes la seule personne de nul parmi nous. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens nuls, selon la parole de Dieu. 1 Corinthiens 3, versets 18 à 19. Les gens nuls, c'est les gens sans épreuve, sans problème, sans besoin d'amour, sans besoin de guérison. C'est les gens qui ont vraiment... Non. Les gens nuls, c'est que 1 Corinthiens 3, 18 à 19, ça dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou selon ce siècle, afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Il y a des intellectuels scientifiques qui vont vous expliquer que Dieu n'existe pas. Et ces gens-là sont des sages selon ce monde. Mais pour être un sage selon Dieu, vous devez croire ce que Dieu dit au lieu de croire ce que les hommes disent. Si vous ne croyez pas la parole de Dieu et vous croyez des hommes qui sont ici un jour et qui sont disparus demain, bien vous êtes un nul. Vous êtes nul si vous croyez les hommes au lieu de croire Dieu, le Créateur. Mais aujourd'hui, si vous êtes rentré à l'église pensant, bien là, ce matin, je vais entendre un message sur les nuls. Est-ce que je suis nul? Mais là, si vous croyez que Dieu existe, si vous croyez que la parole de Dieu est en priorité et notre autorité, bien, vous n'êtes pas nul, vous êtes sage et intelligent selon la parole de Dieu. Amen! Donc, ce matin, jusqu'à date, qu'est-ce qu'on a vu? Vous êtes parfait et intelligent. Bien, c'est merveilleux, ça! Le psaume 14, j'ai pas écrit la référence, mais ça dit « L'insensé dit... En son cœur, il n'y a point de Dieu. » La Bible dit, l'insensé dans son cœur dit qu'il n'y a pas de Dieu. Dans Proverbe 9, 10, elle dit, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. » Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Si vous voulez être sage, intelligent, commencez à avoir une révérence pour le Dieu créateur. Commencez à dire, « Ta parole, Seigneur, je crois ta parole. Je vais croire ta parole au-dessus de n'importe quelle autre chose. » Amen. Devenons sages devant le Seigneur, croyons sa parole. Et une autre chose, si vous voulez vraiment vivre la vie chrétienne selon le cœur de Dieu pour vous, une des choses que vous devez absolument faire, super, super important, vous devez mourir à l'opinion des gens. Vous devez absolument mourir à l'opinion des gens, si vous voulez être heureux. Mais si vous êtes malheureux dans la vie chrétienne, continuez à vous inquiéter de ce que les gens vont dire à votre sujet. C'est vrai. Je vous le dis, quand on a commencé dans le ministère, et là, on a commencé à parler contre moi sur des sites web, et là, il y a des personnes qui parlaient à ma femme, puis disaient à Mathilde, hey, « supposément, ton mari dit telle chose, supposément, il a dit ça. » Puis là, elle était toute peinée au début. « Mais là, mon mari dit pas ça. Mais pourquoi que le monde dit ça? » Parce que quand on dérange le diable, il s'organise pour nous déranger. C'est vrai, ça. Sauf que là, une des choses, j'ai dit à Mathilde au tout début de notre mariage, j'ai dit, va falloir que tu t'habitues à ça, là. Les gens ne nous aimeront pas et puis vont mentir à notre sujet. Ils vont déformer ce que je dis. Pourquoi? Ben, pour aller à l'encontre de ce qu'on est en train de faire, pour nuire à l'avancement du royaume de Dieu. C'est tout à fait normal. Donc, si vous voulez être applaudi par tout le monde et aimé par tout le monde, bien, vous allez vivre votre vie chrétienne en essayant de plaire à tout le monde. Mais si vous êtes prêt et vous dites, la vraie vie chrétienne, c'est cette aventure avec mon Dieu, je marche avec lui, c'est ce voyage avec mon Seigneur, et je sais en même temps, en étant en Christ, je dois mourir à l'opinion des gens, ce que les gens pensent de moi, mais là, vous êtes vraiment intelligent. Vous êtes vraiment intelligent. Galates 20:20. J'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Aujourd'hui, j'ai la pensée de Christ. Je ne suis pas un nul, je suis un enfant de Dieu. J'ai été pardonné. Oui, il y a des gens qui vont des fois dire, mais pourquoi tu es à cette place-là? Mais eux, ils croient ci, eux, ils croient ça. Vous croyez ceci, vous croyez cela? Je crois la parole de Dieu. Ouais, mais t'es pas avec la bonne étiquette. Mon étiquette, c'est lavé dans le sang de l'agneau. Mon étiquette, c'est que j'appartiens à la lumière. Mon étiquette, c'est que je suis un enfant de Dieu. Je fais partie de la famille royale de Dieu. Oui, mais ça te dérange pas, telle affaire? J'ai été parfaitement lavé. Ma bannière, mon autorité, c'est la parole de Dieu. Savez-vous, enfant de Dieu, aujourd'hui, c'est une journée de liberté totale pour vous. Peut-être que vous êtes là et vous dites, « Ouais, mais moi, je n'ai pas de problème, je n'ai jamais été sectaire. » À quelque part, si dans mon esprit, c'est venu que je devais vous en parler, là, c'est parce qu'on a besoin de faire du ménage. On a besoin de dire, « Seigneur, aujourd'hui, si j'ai eu des idoles dans mon cœur, si même l'opinion des gens, c'était de l'idolâtrie dans mon cœur, aujourd'hui, je veux mourir à l'opinion des gens. » Qu'est-ce qu'ils disent? Faut que je marche là-dessus. Peu importe. Moi, aujourd'hui, je veux vraiment te suivre, toi et ta parole seulement. Amen. Puis moi, le moment que vous allez dire ça, là, peu importe. Il y a des gens qui vont déformer ce que vous allez dire, je peux vous le prophétiser. Ou ils vont déformer ce que j'ai dit, c'est déjà arrivé, puis so what. Mais là, l'affaire est une chose importante. Quand vous arrivez à cette place où vous êtes totalement libre, vous êtes un enfant de Dieu, lavé, pardonné, je suis totalement libre. Ce que les gens disent de moi, ben, je vais les aimer quand même. Oui, mais tu dis, on se défend même pas. On laisse le Seigneur nous défendre, le Seigneur nous fait justice, le Seigneur bénit et le Seigneur restaure des vies. Là, au lieu de marcher en train de me comparer, là, je regarde, je me compare au Seigneur. Puis je dis, oh, j'ai bien du chemin à faire. Mais heureusement, je suis en Christ. Je suis en lui et là, j'ai été déclaré justifié, pardonné. Tout ça, je peux marcher dans ma vie chrétienne heureux. Quand je me fais persécuter, quand l'ennemi vient contre moi avec des mensonges, il vient m'attaquer, il vient m'oppresser. Au nom de Jésus, je le fais disparaître, au nom de Jésus, et je ne me laisse pas décourager, pensant que je suis nul parce que je vis des attaques. Je comprends, ça fait partie du territoire. Ça fait juste partie du territoire de la vie chrétienne. Amen? Ça fait partie de la game. Moi, je suis un enfant de Dieu, ça fait partie de la game. Quand je vais être rendu au ciel, oh, c'est merveilleux, j'en aurai plus de problème à ce niveau-là. Mais présentement, je marche sur la terre et puis je comprends que cette aventure avec le Seigneur implique des choses, mais heureusement, je ne suis pas nul, je ne suis pas fou à cause de ça. Selon le monde, oui, mais selon Dieu, je suis intelligent et sage parce que j'ai choisi de croire sa parole au-delà de la tradition, au-delà de la parole des hommes. Amen? Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, je veux juste passer quelques instants. Si vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, à matin, je pense que c'est assez clair que ce n'est pas une histoire de religion ou d'une église. Si vous n'avez pas compris ça, réécoutez le CD. Mais je pense que c'est assez clair. Ce que Dieu veut pour nous, la Bible nous dit « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Ça veut dire qu'on est tous imparfaits. Tantôt, j'ai dit « moi, je suis pécheur, là, j'ai été pécheur ». Mais la réalité, c'est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous été imparfaits à quelque part sur notre cheminement. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est de le réaliser tout simplement. Dire, je réalise que j'ai commis des péchés qui me séparent de Dieu. Mais aujourd'hui, je réalise que Dieu m'aime. Je réalise que Dieu m'aime. Je réalise en même temps qu'il veut me sauver. Il veut me libérer des griffes de l'ennemi. L'ennemi qui veut me traîner en enfer pendant l'éternité. Aujourd'hui, ce que Dieu veut faire, c'est m'accueillir et que je puisse avoir cette relation vivante avec lui. Que je puisse marcher avec Dieu chaque jour de ma vie jusqu'à temps que j'arrive au ciel. Vous savez, Jésus, quand il est allé mourir sur la croix, il est allé mourir comme en tant que l'homme parfait. Lui, Jésus-Christ, l'homme parfait, a reçu la punition que je méritais et que vous méritiez. Jésus a versé son sang précieux. Il a versé son sang afin qu'on soit pardonné de tous nos péchés. Aujourd'hui, vous dites, oui, je connais ça, j'ai déjà vu un crucifix même. Mais ce crucifix-là, ça ne changera rien dans vos vies. Le savoir dans votre tête que Jésus a existé, le savoir dans votre tête que Jésus a fait ces choses-là, ça ne changera rien pour vous. Ce qui va changer, c'est que vous puissiez dire, je comprends, oui, intellectuellement, Jésus est mort, sur la croix pour moi, mais là, je veux recevoir Jésus dans mon cœur. Je vais être lavé. Moi aussi, je vais être pardonné. Donc maintenant, pendant que tout le monde, pendant que vous penchez les têtes, et par respect pour les gens, je veux pas humilier personne dans cette place, mais pendant que vous avez votre tête penchée, les yeux fermés, je vais vous demander, tout simplement, ceux qui voudraient passer l'éternité avec Dieu au ciel, bien, levez la main. Ceux qui veulent aller au ciel et dire, moi, ben merci, je vois les mains, je vois les mains. Ceux qui disent, moi, je veux aller au ciel, je veux passer l'éternité au ciel, bien, gloire à Dieu, merci. Si vous avez dit oui, mais savez-vous, je veux aller au ciel, j'ai levé la main, je veux aller au ciel, moi, je veux pas passer l'éternité en enfer. Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, vous avez besoin de dire, oui, Seigneur, je te reçois dans ma vie. Oui, Seigneur, je te demande de me pardonner. Je réalise que je suis pécheur, que j'ai besoin d'un sauveur. Et là, vous dites, Seigneur, viens dans ma vie et lave-moi, purifie-moi. Le moment que vous dites oui à Dieu, Dieu vous reçoit. Dieu vous reçoit, Dieu vous sauve. Amen. Merci. Je suis content. J'ai vu plusieurs mains ce matin. C'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de relation vivante avec Dieu. Pendant que tout le monde prie, j'aimerais ça maintenant, inviter tous ceux qui ont dit oui à Jésus en levant la main. Maintenant, je veux inviter tous les croyants de cette église. Priez avec nous avec foi. Priez avec foi. Si vous l'avez déjà fait, si vous avez déjà donné votre vie à Jésus, vous n'avez pas besoin de le donner à chaque dimanche. Non, parce que vous l'avez déjà donné une fois, c'est en masse. Là, des fois, quand on chute, on tombe, on se repent, on se relève. Mais si c'est la première fois, une des choses, aujourd'hui, vous pouvez vous rappeler de cette journée-là comme étant la journée où vous avez décidé de donner votre vie à Jésus-Christ pour toujours. Là, ce qu'on va faire, je veux vous demander, les enfants de Dieu, ceux qui ont déjà été adoptés dans cette famille, je veux que vous priez avec moi, avec foi, comme si c'était votre propre salut. Comme si c'était la première fois que vous avez accepté le Seigneur. Pourquoi vous dites, mais pourquoi je veux prier ça? Parce que je suis rempli d'amour et je veux soutenir les personnes dans cette église qui veulent se donner à Dieu. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? C'est super important. Priez-le comme si c'était pour vous-même. Parce que vous aimez. On a parlé tantôt, on va aimer les gens de tous les milieux possibles. Faites-le. Votre premier exercice aujourd'hui, c'est vraiment d'aimer en priant, avec foi, comme si c'était vraiment pour vous. Et là, la Bible nous dit qu'il y a une multitude d'anges qui vont se réjouir au ciel. Il y a un party au ciel le moment qu'une personne dit oui à Jésus. Donc maintenant, pendant que les têtes sont penchées, on va prier ensemble et je vais vous demander de répéter avec foi. Père éternel, je viens devant toi. Je réalise que je suis imparfait, que je suis pécheur. Je te demande maintenant de me pardonner, de me laver. Je reçois ton Fils Jésus dans ma vie. Je m'abandonne totalement à lui. Fais de ma vie un chef-d'œuvre pour ta gloire. Au nom de Jésus, amen. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, pour nos amis sur l'Internet, écrivez-nous et à la radio info@evqmedia.com pour nos amis ici qui ont dit oui à Jésus pour la première fois. Venez me rencontrer après, on va vous donner du matériel pour vous aider dans votre marche avec Jésus. C'est super important, c'est la plus grande journée de votre vie. Peut-être que vous êtes rentré dans cette place, pensez que vous étiez nul spirituellement. Oh, il n'y en a pas de nul dans la famille de Dieu. Il n'y en a pas de fou dans la famille de Dieu. Nous avons tous été lavés, purifiés. Nous sommes tous les chouchous du bon Dieu. Il veut tellement nous aimer, nous dorloter. Amen. Par son amour, par sa présence dans nos vies, par la révélation de sa parole qui nous conduit dans de verts pâturages. C'est merveilleux, cette révélation de Jésus. Ensemble, on veut te remercier, Seigneur, qu'il n'y ait personne de nul dans cette place pour ceux qui veulent ne pas l'être. Seigneur Dieu, je te remercie que tu nous donnes la capacité de devenir intelligent en toi, en croyant ta parole. Et aujourd'hui, on veut, Seigneur Dieu, encore une fois s'engager à marcher avec toi. On veut continuer, Seigneur, à te connaître davantage, que tu puisses continuer à te révéler dans nos cœurs, que tu puisses continuer à te révéler à nous dans les dimensions de ton amour, de ta bonté. Et Seigneur Dieu, fais de nous également des porte-paroles pour toi cette semaine, qu'on puisse partager cette bonne et glorieuse nouvelle aux gens qui nous entourent. Seigneur Dieu, je veux prier pour chaque personne dans cette maison qui t'aime. Je décrète sur leur tête le shalom de Dieu, rien de manquant, rien de brisé. Et j'ai prié au glorieux nom de Jésus. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.